going out all the sends from the master. Then you can bring that one back up again to the same level it was before.
Okay, because I was going to do that, but I saw Desmond select the channel and do some configuration when he deassigned the mic. When he deassigned the mic, so it wouldn't sound out in the house.
When did you do that?
Last session.
This is...
Oh, he hasn't put it back in again.
Let's talk about IPv6 in Latin America, 1330 on November 18th, 2013 in Libertador C.
Okay. We can bring the level back up on the house, same as it was before.
You're good? No, you don't have to turn off. third one. Yeah, there you go.
Mike Stein.
I don't speak English very well. I'm
sorry. Todo bien, disculpa. ¿Quieres los pies, el micrófono? ¿Bajos? ¿Lo hago?
¿O los tienen? Los consulto a ellos, porque en realidad yo voy a ser el que hago la conducción. Entonces yo me quedo con vos.
Okay.
Y pienso que ellos se pueden ir rotando, pero no, no sé si.
¿Hay para todos?
No, hay para dos.
¿Dos hay pies? Dos, no. ¿Dos pies para dos micros?
No, no, digo micros.
Micros.
Ahí sí, para dos nada más. Y bueno, entonces perfecto. Dale. Lo que hacemos es, yo voy a tener un micrófono y hay uno más que se lo vamos pasando.
Rotando. Perfecto. Sí, va a ser más cómodo que mover los cables ahí atrás.
Bueno.
Bon. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette discussion qui est parlant sur IPv6. Je vous raconte un peu ce que vous voyez derrière moi. C'est le hashtag par lequel vous allez pouvoir communiquer avec nos membres du panel qu'on aura dans ce séminaire, discussion, débat, quoi que ce soit. Vous pouvez tous participer. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à travers Twitter. Si vous avez des commentaires, c'est pareil. On va les inclure dans la conversation. Je vais parler un peu de moi brièvement. Ça n'a pas beaucoup trait ici. Ou alors, oui, je m'appelle Gonzalo Camarota. Je suis uruguayen. Je suis communicateur et on m'a amené ici pour modérer cette discussion. Je ne suis pas de Montevideo. Ou en fait, je ne viens pas de Montevideo en ce moment. Je viens de Villa Langostura. J'ai été courir dans la montagne. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que ça a à voir. Bon, je suis partie de Montevideo jeudi dernier. J'ai préparé ma valise avec des habits et des vêtements pour courir dans la montagne à Villa Langostura. Il y a de très belles montagnes. Donc, j'ai pris aussi des chaussures, mes maillons, donc même les boissons énergétiques et tout ce dont j'avais besoin pour venir ici. Donc, une chemise, des chaussures en cuir. Il y a toujours un élément qui ne fonctionne pas très bien. Mais c'est pour ça que j'ai mis ces chaussettes, qui sont très bonnes pour aller courir dans la montagne. Mais ça n'a rien à voir avec cette discussion-là. Donc vous allez voir que j'ai des chaussettes qui sont des Salomon, et ça n'a rien à voir. C'est juste pour que vous ne vous distrayez pas lorsque je m'assierai. On va donc passer directement à connaître nos membres du panel, que vous connaissez peut-être déjà. Je les présente. On commence par la droite. Votre gauche, Federico Giglione, de BT, fournisseur de services Internet en Argentine. Puis on a Carlos Martinez, de LACNIC en Uruguay. Jorge Villa, de Cuba. Et finalement, León Felipe, de Lacralo, utilisateur finaux du Mexique. Entre les cinq, on s'est mis d'accord et on s'est dit que pour commencer la discussion, on allait le faire par l'ordre alphabétique. Et que chacun parmi eux allait parler pendant quelques minutes sur leur point de vue par rapport au protocole IPv6. Donc nous allons commencer avec notre ami Federico. Voilà. Bon, bonjour tout le monde, je suis Federico Giglione. Je fais partie de BT Global Services. Je suis le gérant du produit régional pour l'Amérique latine, des produits de connectivité, y compris l'Internet. D'une part, il est très intéressant, je voudrais remercier l'ICANN de m'avoir permis de participer à cet événement. Je voulais vraiment discuter avec vous la position d'un fournisseur de services Internet lorsqu'il s'agit d'offrir des services IPv6. Bien sûr qu'on sait tous que c'est prioritaire et pour nous en tant que société, on croit qu'on a une opportunité ici pour innover et donc offrir des services de haute qualité et d'essayer que tous dans la chaîne aient les bénéfices de l'IPv6 du point de vue de l'opérateur, du point de vue du fournisseur Internet et de l'utilisateur. C'est ça qui est très valable, qui a beaucoup de valeur lorsqu'il s'agit d'offrir cette infrastructure de service. On peut tous trouver des bénéfices à partir de cette synergie parce qu'on n'a plus vraiment d'adresse IPv4. Donc il est très important de commencer dès que possible la transformation vers IPv6. Merci.
Carlos. Buenas tardes.
Carlos. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, c'est Carlos Martinez qui prend la parole. Je suis d'accord avec Federico. Je remercie ICANN de cette occasion de participer ici dans ce panel. Je ne veux pas dire panel, en fait, parce que les panels, en général, sont ennuyants. Mais je suis très contente de partager cette opportunité avec des gens qui viennent de différentes organisations et qui ont des différents points de vue. Comme Gonzalo a bien dit, je viens de LACNIC. Vous savez déjà ce qu'est LACNIC, il ne faut pas l'expliquer. C'est le registre latino-américain des adresses. Et comme tel, en ce moment, en fait, on gère la misère de ce qu'on a. C'est pas pour vous faire peur. Pas encore. C'est pour que vous ayez peur vers la fin de la semaine. S'il y a des résultats positifs qui viennent de ces résultats, j'aimerais bien que vous veniez ou vous rentriez dans vos organisations ou vos endroits de travail et vous transmettiez ce sens d'urgence que je crois, même si depuis l'ACNIC et d'autres organisations, on parle déjà de l'épuisement IPv4, le moment est venu. Alors, il nous reste peu de mois pour que ça vienne. Donc, le moment d'agir est maintenant. Merci. Jorge? Non, Jorge sera le dernier. Bien, alors je suis Léon Felipe Sanchez, je viens du Mexique, je participe à la CRALO de façon active et j'aimerais aborder la question de l'IPv6 du point de vue de l'utilisateur, comment ça nous affecte, comment on peut l'encourager et contribuer avec des institutions telles que l'ACNIC, où on a vu de grands efforts et on a vu le grand rôle qu'il joue pour encourager le déploiement de l'IPv6 et qu'on parle des fournisseurs de services Internet pour, en tant qu'utilisateur, les pousser à nous fournir ce service. Alors maintenant, Jorge. Oui, c'est Jorge Villa qui parle, c'est mon tour. Bonjour, je voudrais remercier aussi l'ICANN de m'avoir invité à participer dans cette activité, comme disait Carlos, même si pour beaucoup de gens, cette activité a aussi des composants comme la musique et la vie. Nous ici, on n'a pas ces composants-là, mais on va tout simplement parler de l'IPv6 et des activités où il y aura un cocktail peut-être. On pourrait continuer de discuter de l'IPv6. Et cela nous aidera tous. Moi, je viens du Cuba. En ce moment, je représente la région de l'Amérique latine et des Caraïbes au sein de ASO, qui est le comité au sein d'ICANN qui s'occupe des politiques globales d'adressage sur Internet. Et le travail que nous faisons est coordonné. Il nous vient de l'utilisateur final, aux fournisseurs, aux registres régionaux. Et notre rôle est de lui donner un caractère plus général dans certains cas. Et l'idée essentielle est d'essayer de leur transmettre des idées, des expériences, des motivations pour que cette question d'IPv6, sur laquelle on a déjà débattu longuement dans la région et dans d'autres parties du monde, c'est pareil. Donc on essaye d'avoir une transition vers IPv6 ou alors l'intégration IPv6 dans l'infrastructure actuelle de l'Internet soit un processus sans trauma, que ce soit aussi facile que possible pour que les utilisateurs Internet se bénéficient de ce processus, pour que le réseau continue de grandir, pour que de nouvelles occasions de service continuent d'apparaître, de nouveaux contenus, et pour qu'on ait l'option, dans ce cas, depuis l'Amérique latine, de participer de façon avantageuse à un bouleversement de l'infrastructure globale. Dans le cas d'IPv4, on a été là un peu en retard, mais pour l'IPv6, on a l'option, dès le début, d'y participer au même niveau que le reste des régions. Et je pense que c'est un grand avantage et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Merci, dit Gonzalo Camarota. Pour commencer, bon, j'appartiens pas au monde de l'Internet. Je suis ni ingénieur, ni rien d'autres. Mais en fait, lorsque j'ai vu cette question, j'ai pensé en premier lieu, j'ai discuté avec les quatre personnes qui sont ici dans le panel, et mon premier doute était, quel est le problème? Quel est le secret? Pourquoi cela n'a pas été fait encore? Cette personne me dit, même Wikipédia, par exemple, ma copine, elle est ingénieure en système aussi, elle n'a pas su me l'expliquer. Et j'ai essayé de rechercher un peu sur cette question, mais personne ne sait dire si IPv4 est mieux ou alors s'il y a des problèmes sur IPv6 pour faire la transition vers ce protocole. Donc je voudrais que les personnes présente ici essaie de m'éduquer un peu à ce respect si possible. Carlson. Alors, je te passe mon micro. Bon, je ne sais pas où commencer. C'est Carlo Martinez qui parle. IPv4 est comme une drogue. C'est quelque chose à laquelle on est habitué et que la communauté technique et les opérateurs se sont habitués tellement à l'IPv4 que pour eux, c'est très, très difficile de penser à autre chose, à autre système. La réalité est que IPv4 et IPv6 ne sont pas strictement compatibles dans le câble. Et cela nous génère la nécessité d'opérer en parallèle. Et cela a certains impacts au niveau des coûts et au niveau opérationnel. Je dirais que jusqu'il y a 4-5 ans, c'était raisonnable pour la magnitude du déploiement d'IPv6, mais ce n'est plus le cas. Et je dirais que l'Internet est dans un point de charnière où son essence même va changer. Donc c'est comme si je me mettais debout sur les voies du train et que le train vienne. Même si j'aime pas la direction dans laquelle le train avance, le train va me rouler dessus. Donc ce n'est plus une excuse valable et on va devoir faire face à une Internet qui va être assez différente de ce qu'on est habitué. Dans le sens que ça pourrait avoir été mieux, mais ce sera ce que c'est. On va devoir attendre jusqu'à ce qu'on opérera deux réseaux et l'un de ces réseaux sera plus difficile à opérer, en fait. Parce qu'il y aura des dispositifs en milieu qui le font plus difficile. Léon Felipe qui dit, bon, parfois... c'est Federico Guiglione. La partie difficile, en fait, parfois... Ça m'atteint moi en tant qu'opérateur, mais il y a beaucoup d'aspects à résoudre, des questions que le réseau permet aujourd'hui, mais vu la quantité d'utilisateurs que l'on a, on va plus pouvoir le soutenir. Et à l'heure actuelle, on a déjà des difficultés quant à l'adressage IPv4 qui est déjà épuisé et les ressources avec lesquelles on doit opérer comme NAT, qui est la traduction des adresses d'IPv4 au sein d'IPv4 que l'on doit utiliser pour pouvoir sortir et continuer d'utiliser IPv4. Et cela ne permet plus de continuer d'escalader ce système. Et il y a des applications qui ne fonctionnent plus parfois. Donc, l'idéal serait d'aller vers un scénario qui nous permette d'ouvrir nos esprits et de migrer envers IPv6 en tant que natif, même si c'est quelque chose qui a commencé à grandir et qu'en fait, ce n'est pas aussi rapide qu'on attend. Et cela fait partie d'une évolution. Lorsqu'on a commencé à travailler sur ce point, on va offrir IPv6, on va attendre jusqu'à ce qu'on verra qui ce sera qui aura donné le premier pas. Et alors, on a pensé à ça en 2006 en tant que question, on s'est dit, on avance vers où? Et puis en début 2007, on a déjà commencé à faire la migration et on a fini en 2007 cette migration. Et voilà pourquoi aujourd'hui on peut offrir IPv6 comme étant une partie des solutions que la compagnie fournit pour Internet, dans une modalité de dual stack pour permettre une transition un peu plus simple, un peu plus flexible pour les clients. Donc, on s'attend à avoir une avalanche de clients, mais en fait, cela n'est pas arrivé non plus. Donc, on prêche le fait de développer le protocole IPv6 parce qu'évidemment, ça va générer trop de bénéfices. Et cela, on le voit dans beaucoup de champs, c'est-à-dire partout dans le processus. Le processus est simplifié, mais en même temps, ça a une complexité de la même administration. Et pour cela, on doit donner aux clients la facilité, les éléments pour continuer de grandir et pour maintenir cette infrastructure. La puissance que l'IPv6 nous donne est pratiquement infinie et voilà pourquoi on veut soutenir cette transition comme un pas en avant pour l'évolution des réseaux, pour maintenir davantage de connectivité et pour maintenir une communauté beaucoup plus intelligente que ce qu'on peut y offrir aujourd'hui. Bien. Vous me prêtez un micro? Les deux? Non, non, avec un micro, ça suffit. Bon, par rapport à ce sujet, il est important de savoir, dit Jorge Villa, que le futur est conçu depuis le présent. Ce n'est pas depuis le futur. Et donc, si on essaie de savoir, alors de voir ce qui va s'arriver avec Internet dans les prochaines années, il faut commencer à le développer ou à le concevoir avec suffisamment de temps. Est-ce que Carlos disait est vrai? Il y a une probabilité de devoir travailler avec deux protocoles de façon simultanée, comme si c'était deux réseaux, en parallèle, qui exécutent une infrastructure. Mais ce qui se passe, c'est que même si on s'est habitué à se servir du protocole IP version 4, donc IPv4, le cas est que les gens continuent d'investir sur le réseau. Et donc, ce qui n'est pas censé est d'investir sur un réseau constamment et ne pas ajouter le protocole IPv6 directement. C'est le nouveau protocole envers lequel le réseau complet est censé évoluer. Donc voilà pourquoi on a un peu cette excuse du coût qui n'est pas complètement valable. Les gens continuent d'acheter des équipes. Mais quelles équipes achètent-ils? Les équipes IPv4 qu'ils connaissaient déjà, et ils économisent leur argent en formation, qui est important. Indépendamment des équipes que vous achetez, que ce soit IPv4, IPv6 ou que vous travaillez avec les deux protocoles, il faut continuer de former les ingénieurs pour les réseaux. Il faut continuer de former les développeurs pour qu'ils fassent des applications meilleures. Donc, par conséquent, je crois que la question économique n'est plus valable comme barrière. Je pense que la barrière principale est comment le système est conçu depuis les différents niveaux de la chaîne. Et il y a quelques instants, on a discuté et je me rappelais, en fait, il y a beaucoup de personnes ici qui ont quelques ans. Il y a même des gens plus âgés que moi ici. Vous vous rappellerez qu'il y a une question qui me vient à l'esprit tout le temps, qui est le problème de l'année 2000. Le célèbre Y2K, c'était la fameuse erreur à laquelle on s'attendait, qu'on a été censé arrêter lorsqu'on a changé la millénaire. Et on a commencé à se servir de la date avec les quatre chiffres. C'était un travail qu'on a commencé à faire plusieurs années avant. Et ça a bien fonctionné. On a commencé à le faire. On a mis des patchs et des solutions dans les logiciels qui allaient être affectés, supposément. Il y a des gens qui se sont préoccupés parce qu'apparemment, il y avait des fonds dans les bancs aussi qui étaient en risque. Mais en fait, ça a bien fonctionné. On ne sait toujours pas si la catastrophe qu'on prévoyait aurait vraiment eu lieu. Mais on a fait le travail avant une date butoir qu'on s'était fixée. Et le problème avec IPv6, c'est qu'on n'a pas de date butoir. À l'époque, l'année 2000 allait arriver dans un certain délai. Alors, il fallait tout résoudre avant l'année 2000. Nous, les humains, on s'est accoutumés au fait que demain, on peut le faire. Et donc, si ça fonctionne, je dis, je le ferai demain. Et à chaque fois, on pense qu'on le fera le lendemain. Et on le laisse parce que c'est plus simple. Si on n'a pas de pression pour le faire, ce qui est laissé à la volonté des personnes n'a pas toujours les meilleurs résultats. Voilà. Bien. Felipe, je veux dire quelque chose avant que tu commences à parler, dit Gonzalo Camarota. Je lisais ton tweet. Et l'espace de l'utilisateur est aussi important ici. Donc, avant tout, le change de paradigme ou ces changements importants qui peuvent rester donc accessibles à tout le monde. Mais pour l'instant, ce n'est pas accessible dans le sens le plus large. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient être exclus avec IPv6? Bon, dit Léon Felipe, je ne suis pas un expert, mais les produits que l'on achète en tant qu'utilisateur final sont déjà prêts à utiliser ce protocole IPv6. Si je ne me trompe, pour nous, ça devrait être transparent. Comme migration, on ne devrait pas se demander si on circule, soi-disant, sur un protocole IPv4 ou sur un protocole IPv6. Et la façon dont on pourrait, en quelque sorte, être isolé est parce que nos équipes n'auraient pas cette possibilité de pouvoir communiquer dans un monde IPv6 alors qu'ils auraient déjà complété cette migration. Donc pour l'instant, ce que je comprends est que depuis le point de vue technique, on roule sur deux autoroutes parallèles. L'une fonctionne sur IPv4 et l'autre sur IPv6. Et à un point où elles s'intersectent, et c'est là que la traduction de ces deux protocoles se fait. Il me semble peu viable, si on me demande. Ce serait un point que nos amis, les techniciens, pourraient nous aider à approfondir. Mais je vois déjà certains problèmes dans les réseaux, et j'insiste au niveau des utilisateurs, qu'il me semble devraient être liés nécessairement à l'aspect technique, tel qu'est le cas exclusif du technique du Mexique. Si on a un dispositif portable et qu'il est lié à un réseau, par exemple, dans mon cas, moi, j'utilisais l'opérateur Telcel. Mais beaucoup de fois, mon équipe me dit que tu as une connexion de données. Et cependant, ces données ne circulent pas dans aucun sens. Ça n'arrive pas et ça ne sort pas non plus. Lorsqu'on analyse l'élément de ce qui arrive, en fait, l'équipe n'a pas une adresse IP associée. Ça n'a pas un IP assigné. Et je pense que cela peut être attribué en même temps au routeur et à la disponibilité d'adresse IP du fournisseur même. Donc, si on demande à faire migrer le système IPv6, on aura moins de problèmes de connectivité. Et évidemment, on pourra recevoir une meilleure qualité de service quant au portable et au fixe aussi, parce que c'est un problème que j'ai vu non seulement dans le réseau mobile ou portable, mais aussi dans les réseaux des foyers, surtout lorsqu'on connecte à travers des systèmes qui mettent ta maison dans un sous-réseau. Donc on appartient à un sous-réseau, on se connecte à une IP publique qui est bonne pour beaucoup de foyers en même temps. Donc ça génère aussi de gros problèmes quant à la mise en œuvre que ces fournisseurs de services font. Ce sont des fournisseurs qui sans doute n'ont pas de disponibilité d'adresse pour assigner aux différents utilisateurs qui se connectent. Oui, dit Gonzalo Camarota, j'ai lu un tweet que tu as publié. Tu as mentionné Telmex et plusieurs compagnies qui fournissent le service. Et c'est qu'en quelque sorte, ce que tu dis est, bon, eux, ils sont payés pour un service et la qualité du service qu'ils offrent n'est pas aussi importante. Et ce qui arrive avec IPv4 à l'heure actuelle est cela. Mais ce que Jorge disait, que la question économique aujourd'hui n'est plus un problème parce qu'on continue d'investir pour technologie en IPv6, il faut aussi former les techniciens. Donc, qu'est-ce qui arrive là avec ces compagnies que tu nommais, par exemple? Ou alors, est-ce une question économique de base? Oui, ce serait peut-être une question économique. Mais selon ce que je sais, dans le cas spécifique de Telmex au Mexique, ils sont tout prêts pour déployer IPv6. Et alors, lorsqu'on va leur voir, on leur demande sur la disponibilité des services IPv6, ils répondent que l'utilisateur ne l'a pas demandé et qu'ils ne sont pas à 100% prêts pour que les sites des fournisseurs de contenu soient déjà connectés à ce protocole. Alors, je pense que là, on a un problème de qui vient premier, non? Mais donc, si moi, j'en ai besoin et tu me le demandes pas, tu me le fournis pas. Et comme Jorge disait, il faut établir un point définitif dans le temps pour que l'on donnera de façon pas naturelle, mais forcée, cette migration vers le suivant protocole pour qu'on puisse réjouir des bénéfices associés. C'est Gonzalo Camarota qui parle. Je voulais demander au reste s'ils considèrent qu'on devrait fixer une date ou un moment. C'est Federico Giglioni qui parle. Je pense que ce serait très bien d'avoir un point où on pourrait dire on utilisera IPv4 jusqu'à ce moment-là, ou alors de fixer. Parce que vraiment, parfois, on s'attend à ce que cela arrive d'une façon beaucoup plus accélérée. Donc, je pense que ce serait très bien de fixer une date, comme on a fait avec le Y2K, On s'est fixé une date qui était forcée. Oui, c'était les chrétiens qui l'ont fixée, dit Gonzalo Camarota. C'était les chrétiens, en fait, c'est eux qui avaient installé cette date de 2000 à partir de la naissance. Non, non, je ne veux pas entrer dans la question religieuse, je ne veux pas des problèmes, dit Federico Giglione. Bon, dit Gonzalo Camarota, apparemment on a des questions. Et pendant qu'ils amènent le câble jusqu'ici, dit Carlos Martinez, il me semble que fixer une date serait génial, mais ce n'est pas possible, à mon avis, dans le sens que l'Internet est trop décentralisé pour faire cela. Mais il y a des dates que, si on les considère, elles sont là déjà. Donc on estime l'épuisement, ou en tout cas les premières étapes de l'épuisement de l'IPv4 qui se donnerait à partir de juillet de l'année prochaine. Donc voilà une date déjà. C'est une date à laquelle un nombre de choses vont arriver, particulièrement grâce aux politiques en force en LACNIC, et la façon dont les adresses IP sont assignées va changer. Et maintenant, vous savez qu'on ne pourra pas vraiment modifier nos versions d'IP. Donc, la façon dont les opérateurs de réseau opèrent leur réseau va devoir changer, parce qu'on ne pourra plus avoir une tranche 22 qui est trop petite. Donc ce n'est pas une date fixe, mais cela marque une date charnière entre deux étapes. C'est un bon horizon de temps pour avoir un radar, et c'est quelque chose qu'on peut tous faire, c'est de diffuser cette date estimée qui, bien sûr, comme toute prévision, il y a... Ce n'est pas bon de prévoir, c'est un peu un pari. On peut changer en avant ou en arrière, mais pas radicalement. On a une question, dit Gonzalo Camarota. Oui, j'ai deux questions maintenant. Ah, vous avez une question sur Twitter, dit Camarota. Oui, c'est la dame qui parle. Je l'ai fait sur le chat, hein. C'est la participation à distance. La première question est que faire pour que les utilisateurs massifs de câbles modem et l'IPv6 en tant qu'utilisateurs finaux. Et puis, quelles sont les considérations de sécurité pour déployer IPv6, par exemple, dans le cas de campus d'une université avec dual stack? C'est toi qui vas les répondre, non?
Bien. Alors, première question d'abord. Jorge voulait faire un commentaire. Bon, on va faire comme ça. La première question, c'était comment? J'essayais de... Qu'est-ce qui est nécessaire, hein? On travaille sur deux réseaux en même temps. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui est nécessaire? D'abord, l'opérateur doit avoir une capacité pour offrir IPv6. Et pour cela, il doit d'abord pouvoir gérer... les directions. Ce n'est pas la même chose de gérer IPv6 qu'IPv4. IPv4, avec un Excel, ça suffit. Ensuite, pour gérer un adressage IPv6, il faut avoir un outil qui s'appelle IPAM, qui est un peu plus sophistiqué. Et il permet aux usagers ou à l'opérateur de gérer une grande quantité d'adresses. Ça peut être des millions d'adresses. Et connaître exactement les adresses qui correspondent à chaque utilisateur. Donc, je crois que ce serait la première étape. Ces outils sont déjà disponibles et ne sont pas excessivement chers. Je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir cette infrastructure, mais il faut aussi avoir les ressources d'un opérateur et que ces ressources soient formées pour pouvoir passer à IPv6. Donc, c'est une étape qui dépend de la compagnie. Nous, dans notre cas, à BTM, on a fait ça en 2007. On pensait qu'on allait accélérer un peu les choses. Ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, on est prêt à offrir IPv4 et IPv6 en dual stack. Je pense que c'est une transition simple pour rendre cela plus donc aisé. Je pense que le mieux, c'est de passer directement à IPv6 parce qu'il y a davantage de bénéfices à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Je voulais ajouter quelque chose sur la première question qui a été posée aussi. Il y a quelque chose qui est certain. Les opérateurs de modem, de CL, de DSL et de câble modem, ont un grand investissement à faire dans leurs installations. Je dois reconnaître que j'ai travaillé pour un opérateur de câble modem à une époque. Les EPS ont donc un cycle qui fait que tous les 3 ans, les SPS sont remplacés. Le secret, c'est de les changer tous en même temps, dit Carlos Martinez, mais ce n'est pas possible. Donc, à mesure que je les remplace, par des équipes qui acceptent IPv6. Le problème, c'est que dernièrement, on a eu des gros investissements en équipement neuf qui ne supportent pas IPv6. Voilà. Donc, je crois que c'est cela qu'il faut essayer de corriger. Moi, je dirais que l'IPv4, c'est un petit peu comme les drogues. Hein. On a du mal à s'en passer, mais c'est un cycle qu'il faut rompre. Ensuite, je ferai un commentaire sur l'autre question. Moi, j'aimerais passer à une autre question. Je vais te donner le micro. Toi, tu avais donc un micro. Voilà. Bien. Donc, en réalité, ce n'est pas une question. J'ai un commentaire à faire sur la date limite, le fait d'établir une date limite. C'est quelque chose qui a été fait, mais qui n'est pas respecté des fois. Et au niveau d'IPv6, Star Forcing Europe, depuis il y a quelques années, on a discuté, là, parce que moi, je travaillais pour la CITA, qui fait des applications, des grandes applications, hein, pour donc les compagnies d'aviation et les aéroports. Et ces compagnies peuvent être aussi les banques et d'autres industries. Ces applications ne peuvent plus être améliorées. On ne peut plus faire donc de upgrading. Ce qu'il faudrait faire, donc, c'est augmenter la sensibilisation des gens et des compagnies, des grandes compagnies, pour que ces applications ne fonctionnent plus avec IPv4, mais avec IPv6. Ce sont des applications qui vont nous servir dans les 20 années à venir. Et donc, je pense que l'industrie pourrait vraiment être aidée pour faire ce passage. Ce qu'elle disait, c'est... Je vais reprendre un petit peu ce qui a été dit sur le fait que les gens doivent investir. Hein, c'est ce qu'elle dit. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quelle application qui se fait à grande échelle, une application est une application modulaire. Et par conséquent, si l'on ne commet pas d'erreur, on peut utiliser les bibliothèques correspondantes qui nous permettent de travailler aujourd'hui avec IPv4, IPv6. Et peut-être que bientôt, on aura IPv8, IPv10. Ce qu'il y a, c'est que c'est un concept sur la façon de développer les applications. Tous les jours, on offre une nouvelle fonctionnalité. Et donc, c'est ce concept qu'il faudrait avoir. Je ne sais pas si vous avez ce problème et vous rentrez sur Yahoo, sur Facebook et tout a changé. Et on vous dit, non, on a un nouveau profil, et ce que vous avez trouvé quelque part n'est plus là, est ailleurs. Et c'est simplement parce qu'ils ont fait des améliorations d'interface de l'usager et ils cherchent une facilité ou une flexibilité, une souplesse particulière. Et cela, c'est le développement modulaire des logiciels qui vous le donnent. Je pense que c'est une pratique assez étendue dans les grandes compagnies, mais il est important que dans le secteur universitaire, par exemple, où l'on prépare les programmeurs, les développeurs de ce type de solution, il faut donc qu'ils sortent de l'université et avec déjà certaines connaissances, hein, et de ces technologies, qu'ils sachent que c'est le futur, que c'est le futur qui nous attend. Il me semble que tout cela est bon pour tout le monde. Et de toute façon, bien qu'il n'y ait pas de date encore qui ait été donnée, il y a des gens et qui font des prédictions et qui obtiennent des bons résultats. Moi, personnellement, je pense que ce qui devrait se passer, c'est que les gens devraient commencer à déployer IPv6 à partir de ces données-là. Ne pas compliquer le réseau, hein, pour ensuite être obligé de faire des investissements pour passer à IPv6 avec n'importe quelle technologie. Parce que sinon, on va rendre les choses plus complexes, ce qui a un coût social. Hein. Il faut donc, au niveau de la gestion, au niveau des équipements, on complique les choses. Et je pense que c'est ce qu'il faudrait faire dans notre région. Bien. Nous avons quelques questions ici. Il y a une question qui nous rappelle une question qui a été posée à laquelle vous n'avez pas répondu. Et puis, il y a une autre question. Quelles sont les considérations de sécurité pour déployer IPv6 dans le cas, par exemple, d'une université avec dual stack? Les considérations de sécurité sont toujours les mêmes. Ce sont les mêmes que celles que l'on appliquerait pour IPv4. Si vous avez un ensemble de sécurité adapté à IPv4, vous devez faire la même chose pour IPv6. C'est le même travail? Dans certains cas, oui. Dans certains cas, non. Tout dépend des équipes de sécurité que l'on a, des pare-feux, etc. Ça peut donner un peu plus de travail. Les équipements que l'on utilise dans notre centre de l'ACNIC nous laisse définir les mêmes politiques et les répliquer en IPv4 et IPv6. Donc, ça nous donne un peu plus de travail, mais il suffit de dire que telle machine a une adresse IPv4 et IPv6, et ensuite les autres appareils s'adaptent. Il y a quelques considérations spécifiques. Il y a des considérations qui sont spécifiques aussi à IPv4 qui concernent la sécurité dans les couches 2, mais nous ne sommes pas ici pour parler de sécurité. Et donc, je demanderai aux gens de nous écrire. Je voulais faire un commentaire sur les applications faites à propos de ce qu'a dit Rosa. Le commentaire de Rosa. Rosa a raison, l'industrie des logiciels dans le domaine des aéroports et des compagnies d'aviation ont des logiciels que personne n'ose toucher. Et parce que ça risque d'avoir des impacts multiples. Il y a des techniques déterminées qui peuvent être appliquées pour ne pas être obligé d'agir sur les applications en elles-mêmes. Oui, je voulais faire un commentaire par rapport à la sécurité. Ce n'est pas un secret. Tous les systèmes opérationnels que nous utilisons aujourd'hui, Microsoft, Apple, Google, Android, tous supportent l'IPv6 et ils ont ce système qui est habilité par défaut. Donc, ceux qui s'inquiètent pour savoir ce qui va se passer lorsqu'on va déployer IPv6 sur le réseau, et il faut qu'ils sachent que leur réseau a déjà un trafic d'IPv6 et que ce trafic peut même être entre des ordinateurs qui violent des politiques, parce que le fait de ne pas s'être inquiété pour l'installation, pour le déploiement d'IPv6 fait que très souvent il faut actualiser les outils de gestion et on n'est pas capable de voir qu'il y a un trafic différent sur le réseau. On voit ce qui se fait en IPv4 et ce qui se fait en IPv6 devient transparent. Donc, je pense que depuis un certain temps, et il est important de s'occuper de cela. On aurait dû le faire avant. Et aujourd'hui, déjà, la plupart des usagers ont des dispositifs avec les IPv6. Et oui, on va en parler. Et certains disaient IPv6. Comme utilisateur final, il faut payer un prix additionnel pour les appareils qui supportent des services ou un système IPv6. Je ne sais pas ce qui va être fait par les opérateurs de réseau, parce que dans le tarif du service, il y a un coût associé à l'utilisation des réseaux IP. version 4 et version 6 du point de vue de l'usager. Comme équipement, je dirais que quel que soit l'équipement que vous achetez aujourd'hui, il supporte les deux choses. Vous pouvez travailler aussi avec un logiciel qui implique quand même un niveau d'investissement supérieur. Oui, du point de vue de l'opérateur, en réalité, ce qu'il faut voir, c'est surtout si l'investissement doit être fait pour que les PV6 soient actifs pour tous les usagers et s'il faut faire des changements sur le réseau et si ces réseaux vont apporter des bénéfices et puis des bénéfices pour les utilisateurs surtout. Je pense qu'ici, il faut voir cela, il faut considérer cela comme un changement dans l'échelle de la quantité d'utilisateurs que l'on va obtenir lorsqu'il faudra passer à IPv6. Oui, je crois que le business sera meilleur. Oui, c'est pour ça que c'est si important. Et rappelez-vous qu'aujourd'hui, on a une pénétration d'Internet en Amérique latine au-dessus de 30-40%. D'une année à l'autre, en fonction de chaque pays, c'est une croissance immense. Et donc, si nous avons cette croissance qui est un problème pour IPv4, sur IPv6, ce sera beaucoup plus simple à gérer par rapport aux opérations, et cela va nous permettre de mettre en place une expansion pour que les opérations sur Internet soient plus importantes, soient plus nombreuses, pour avoir davantage d'utilisateurs, pour utiliser davantage d'applications sur IPv6. Donc je pense que ce sont des questions très positives et qui valent vraiment la peine d'investir dans ce domaine. Je vais en profiter pour poser une question. Je voudrais ajouter quelque chose. Et la question est la suivante. Est-ce que c'est vrai que les équipements, les appareils qui supportent IPv6 peuvent avoir un coût additionnel? C'est vrai. Il est aussi vrai que les opérateurs ne vont pas pouvoir continuer à travailler comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant. Il va falloir qu'ils investissent dans d'autres types de technologies pour pouvoir continuer à voir leur business donc se développer. Il serait très intéressant de la part des usagers que ce coût ne soit pas transféré sur leur facture mensuelle. Donc, si l'on veut, c'est un petit peu toujours... Et on a toujours ce problème de situation, quel que soit ce qui se passe. Il faudra qu'il y ait un coût additionnel qu'il va falloir payer et que ce sera les usagers qui vont payer. En tant qu'usager, en tant qu'opérateur, on peut se demander ce que l'on veut que soit ce coût, quelque chose qui est un futur ou quelque chose qui nous mène à une voie morte. Voilà, ça serait un petit peu le doute qu'on a. Bien, je suis Juan Herzog, j'appartiens à un fournisseur de services Internet. Ce n'est pas ma faute, dit-il. Et je voudrais faire des commentaires ici. Ce n'est pas vraiment des questions que je voudrais poser, c'est un commentaire que je voudrais faire. Au niveau officiel, au niveau international, est-ce qu'il y a un plan pour achever la fabrication du hardware, du matériel de l'utilisateur final qui ne supporte que IPv4? Parce qu'ici, il y a une décision importante. Moi, je sors de Sheraton, je vais acheter pour $35 un répéteur Wi-Fi, parce que le signal de Wi-Fi ici de La Réunion n'est pas bon. Je le branche, je le configure en 2 minutes et c'est prêt, ça marche. Si je dois penser moi-même, en tant qu'utilisateur final, je mets dans la peau d'un utilisateur final, si j'ai cette possibilité, je vais continuer à l'utiliser. Donc, du point de vue du fournisseur, c'est beaucoup plus difficile, le déploiement. D'abord parce que ça te force, même si tu as des options techniques pour définir une voie de transition vers IPv6, en fait, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est le dual stack, parce que toi, en tant qu'entreprise, tu ne peux pas forcer tes clients à changer d'équipement, des équipements qu'ils ont achetés eux-mêmes. Si les fournisseurs, dans leur ensemble, parce que je peux vous dire que je suis dans la compagnie Gigared, j'appartiens à la compagnie Gigared, bon, et c'est une petite compagnie, peut-être que personne ne la connaît. En tout cas, nous, on prépare déjà On a à peu près, on a le backbone qui supporte IPv6. Il nous manque le déploiement final du backroom. On a déjà des maquettes avec IPv6. On a déjà joué un petit peu avec ce système IPv6. On a publié des sites avec des DNS qui ne sont pas publics, l'IPv6, pour une question de sécurité, de crainte. La question ici, c'est que ce qui va nous manquer, c'est le soutien de l'extérieur pour pouvoir dire, OK, on va. Ou bien il faut fixer une date limite pour que, à partir de telle date, ici, ça pourrait être un organisme qui régit les communications. À partir de telle date, le réseau va, comme on a fixé une date pour la fin du système de télévision, on a fixé une date pour la fin du système IPv4. Je ne vous dirai pas une date très proche, mais l'année prochaine, par exemple. Moi, chez moi, je suis prêt pour IPv6. Sauf le système que j'emporte quand je pars en vacances. Tout le reste est prêt pour l'IPv6. Donc, et il faudrait qu'il y ait... Comme on va devoir changer toutes les télévisions analogiques, qu'il y ait une date limite et qu'on établisse et qu'à cette date-là, il faudra utiliser IPv6. Si l'on veut avoir le dual stack, d'accord, mais comme utilisateur final, tu dois utiliser un matériel qui supporte un réseau IPv4, mais qui soit aussi capable de supporter IPv6. Parce que ce que je vois, c'est que le problème, il a été refilé, entre guillemets, aux fournisseurs. Et il n'y a aucune initiative officielle qui vise à résoudre ce problème d'une façon ou d'une autre. Je crois qu'ici, il y a une idée intéressante. Donc, faire la clôture de la solution en IPv4, ce serait une bonne mesure. Moi, ce que je recommande... C'est pour les gens qui administrent les adresses qui restent de dire, bon, ça y est, il n'y en a plus. Accélérer ce processus et dire, ça y est, il n'y en a plus. Elles se sont épuisées, ces adresses, et moi, en tant qu'utilisateur et non pas en tant qu'opérateur, je propose cela. Ensuite, autre chose qui me semble important ici, c'est de définir une date. Dire, OK, à partir de telle date, on va utiliser le système IPv6. À partir de ce moment-là, le réseau évoluera dans ce sens-là. Et donc, proposer aux fabricants d'organiser cette clôture et dire qu'à partir de telle date, on ne fabrique plus d'équipements qui fonctionnent sur IPv4. Je crois que c'est la meilleure politique. C'est tout à fait raisonnable, à mon avis. Je voudrais faire un commentaire de plus, bien que ce ne soit pas ici le thème de notre panel, mais je voudrais vous rappeler et vous demander qu'est-ce qu'on fait. Nous, on applique les communautés que la... on applique ce que la communauté nous demande. Bien. Mais de toute façon, ces adresses vont s'épuiser. Les adresses en IPv4 vont s'épuiser. Et il va y... un beau jour, ça va arriver. Il va y avoir une série de phases qui vont mener à cela. Et donc, il n'y en aura plus. Ce qu'il va y avoir ensuite, c'est une période de restriction pour l'accès aux adresses et quelle que soit la taille du fournisseur, ils auront accès à des blocs d'adresses qui sont petits. Je ne sais pas si je suis d'accord avec cette date à établir. Moi, en tant qu'industrie, en tant que secteur, je pense qu'on devrait être capable de s'auto-réguler et de proposer certaines choses. On sait qu'il y a des réseaux qui existent et qui concernent les changements de phase d'assignation, etc. Et vous m'avez fait remarquer quelque chose, et c'est que dans le cas des fournisseurs de services, il y a deux possibilités. La première, c'est que le fournisseur de services achète le CPE. Et ensuite, on a l'autre cas dans lequel l'utilisateur achète le CPE. Dans le cas de la première possibilité dans laquelle l'utilisateur achète le CPE, ici, ton devoir en tant que fournisseur, c'est de lui donner la possibilité d'acheter un CPE un peu plus cher ayant la version IPv6. Celui qui ne veut pas le faire peut ne pas le faire et ton bureau d'assistance doit lui dire que si les choses ne marchent pas bien, c'est parce qu'il n'utilise pas IPv6. Et donc, à ce moment-là, tout est clair. Oui, du point de vue de l'utilisateur, c'est vrai aussi que comme utilisateur, souvent, on n'est pas au courant de ce genre de choses. Moi, je vais acheter un truc, on me dit, OK, tu as le choix entre ça et ça. ça, ça coûte moins cher, mais je prends ça. Hein, j'en sais rien, moi. Et donc, des fois, il faudrait peut-être informer mieux les utilisateurs finaux pour qu'ils soient au courant de cela. Je voudrais vous demander de parler un peu plus lentement, parce qu'on parle d'IPv6, de dual stack. Hein, on va faciliter un peu le travail des traducteurs en parlant plus lentement. J'ai une question de Luis Espinosa de Costa Rica qui dit... Que se passe-t-il si les utilisateurs finaux sont ceux qui envoient le service IPv6 au lieu d'attendre que les opérateurs l'offrent? Est-ce qu'il n'est pas possible de faire une clôture d'IPv4? C'est faux. Les dual stacks existera pendant longtemps et forcer la clôture est imprudent. Donc, ce qu'il faut, c'est encourager l'utilisation d'IPv6 et essayer de décourager l'utilisation d'IPv4. Je ne sais pas ce qui est le mieux. Je ne veux pas parler, donc... donner mon opinion, l'opinion de ce qu'ils sont en haut et puis voir ce qu'ils sont en bas, hein, c'est pas une bonne vision des choses, je sais. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut voir? L'utilisateur doit faire pression ou bien, comme on le disait, le fournisseur de certains logiciels est celui qui est responsable de prendre les initiatives. Le fait que l'utilisateur soit celui qui doit faire pression, hein, est peut-être plus logique que la clôture de l'IPv4. L'utilisateur, le jour où il a acheté un équipement qui lui a coûté très cher, hein, et qu'il ne peut pas l'utiliser parce que c'est seulement IPv4, ce jour-là, ou parce que c'est seulement IPv6, ce jour-là, l'utilisateur va se mettre en colère parce que cet investissement ne lui sert à rien. Mais ce n'est pas la réalité de notre quotidien. Je dirais que les utilisateurs vont commencer... à réclamer une connectivité IPv6 lorsqu'il y aura quelque chose et un matériel auquel ils veulent accéder qui n'existe qu'en version 6. Je vous rappelle que les Japonais de PromotionCon, lorsqu'ils ont travaillé il y a plusieurs années sur l'introduction d'IPv6, avaient proposé quelques stratégies. Il y en avait une qui paraissait une plaisanterie, mais qui a été appréciée par le public. Et ça s'appelait la geisha du mois. Hein, donc, ils ont un site avec une geisha qui donc apparaissait sur le site et cette geisha ne pouvait l'avoir qu'en utilisant la connexion IPv6. Et donc, c'était quelque chose qui était destiné à amener les gens à avoir IPv6 parce que sinon, ils ne pouvaient pas avoir la geisha. Mais voilà, c'est le type de choses qui vont provoquer ou qui vont amener, encourager les gens à utiliser le système IPv6. C'est ce qui va faire que les utilisateurs vont demander aux fournisseurs d'avoir accès avec donc une version 6. Si c'était possible seulement avec la version 6 de faire certaines choses, on aurait déjà plein de gens devant les fournisseurs de services et les opérateurs qui viendraient réclamer ce système. Très souvent, on ne peut pas avoir IPv6 parce que l'opérateur n'a pas été capable de déployer le protocole correctement. Est-ce que quelqu'un veut poser une question là-dessus? Non? Bien. Je suis Raoul Echeverria de l'ACNIC. Je voulais faire un commentaire sur quelque chose dont vous avez parlé il y a un instant. Dans beaucoup de réunions, on aborde la question de l'équivalence ou de la ressemblance avec la clôture de la télévision analogique. Mais je pense que c'est en réalité, ce sont deux choses très différentes parce que les émetteurs de signaux de télévision analogique sont peu nombreux. Et ce sont des fournisseurs de services qui ont des licences qui sont réglementées par les États dans tous les pays du monde. Donc, c'est très facile de travailler avec eux, de coordonner leurs services et de les obliger même à cesser d'émettre ces signaux analogiques à certaines époques, à une date établie. Mais l'architecture d'Internet, c'est tout à fait différent. Ce n'est pas une architecture de tous contre tous. C'est difficile à réglementer, surtout lorsque les générateurs de contenu sont les utilisateurs, sont des personnes qui utilisent Internet. Et donc, à ce moment-là, les obliger à utiliser IPv6, c'est difficile. En plus, je pense qu'il va continuer à y avoir des réseaux qui vont travailler seulement avec IPv4 et cela pendant longtemps. si l'on regarde l'adoption est réussie d'IPv6 dans les années à venir. Et si l'on considère cela, je pense qu'il va quand même y avoir des réseaux qui ne vont pas avoir la nécessité de migrer pendant longtemps. Et il y a quelque temps, dans un pays de la région, il y a eu un projet de réglementation qui prévoyait l'importation, non pas vraiment ça, mais qui exigeait pour cette importation d'équipements de communication qu'il fonctionne avec l'IPv6. Les fabricants sont entrés en communication avec le gouvernement et ils leur ont dit qu'il faudrait continuer à importer des équipements qui travaillent aussi avec IPv4 pendant un bon moment pour des réseaux fermés, pour des réseaux qui sont des réseaux IP qui ne sont pas connectés sur Internet ou d'autres exemples. Et qu'il n'y avait aucune raison de renchérir le prix de ces équipements pour les utilisateurs, puisque si ces utilisateurs n'avaient pas de demande en IPv6. Donc les questions sont peut-être plus compliquées que cela ne paraît. Et ces fabricants étaient inquiets parce que c'était des fabricants qui, on le sait, et sont très engagés pour le déploiement de l'IPv6, mais ils avaient une préoccupation réelle. Ils savaient qu'une mesure de ce type allait affecter leur business et de manière innécessaire.
Bonjour, je suis Julian Donacevich. Depuis les années 90, on parle d'IPv6 comme quelque chose de différent. Or, cette question de l'épuisement des adresses IP, et on parlait de qualité de service, du débit de bande que l'on avait engagé, que ce serait un réseau qui allait donner de différents bénéfices. Et en fait, dans le réseau avancé, c'est comme un réseau parallèle à l'Internet, on dit la même chose. Et cependant, même dans les réseaux avancés, on a toujours un grand nombre d'utilisateurs d'IPv4, même si c'est un réseau complet en dual stack. Je pense qu'on doit continuer d'investir indépendamment de la problématique de l'épuisement d'adresse pour pouvoir déployer des applications qui puissent saisir ce genre de facilité où l'utilisateur, et je ne parle pas de l'utilisateur final chez lui, mais plutôt de corporations, d'organisations, de sociétés, d'universités, etc., qui voient l'avantage d'utiliser IPv6. Je pense que c'est l'un des éléments fondamentaux pour générer ce bouleversement. Donc, par exemple, de travailler avec un débit ou une largeur de bande dynamique ou beaucoup d'autres mesures qui pourraient être mises en œuvre et qu'à ce jour, les fournisseurs ne peuvent pas fournir ou offrir parce qu'ils ne peuvent pas le mettre en œuvre à travers IPv4. Et cependant, ce serait un différentiel pour IPv6. OK. Oui. Bonjour, je viens de la province de Córdoba. Et c'est ma première fois à cette rencontre. Je viens d'une coopérative qui fournit le service Internet à plusieurs communautés. Et pour nous, il est intéressant de venir ici pour comprendre un peu dans quel sens on avance. Et vous entendant tous, j'ai une préoccupation et une nécessité de demander s'il y a... Et j'entendais dire maintenant que ce serait bien d'encourager l'utilisation d'IPv6. Pour nous, les petits fournisseurs Internet... On est un petit fournisseur, on a 10 000 abonnés. Peut-être pour vous, ce n'est rien, mais dans nos communautés, les coopératives, peut-être on couvre les nécessités que les grandes corporations ne peuvent pas aborder. Donc, j'essaierai de parler ponctuellement pour savoir si vous essayez de soutenir ces petits fournisseurs de services Internet des provinces dans une voie pour parvenir à la migration ou à la mise en œuvre d'IPv6 de façon... réussite sans avoir à faire face à de grands coûts. Pour nous qui sommes dans les provinces, le fait d'assumer des coûts non seulement économiques, mais aussi de mauvais fonctionnement du service, cela nous laisse mal placés. Alors peut-être, je ne sais pas si la demande ici serait d'essayer de soutenir ces actions avec la formation, avec des cas de succès, avec des professionnels qui aient participé à la migration ou à la mise en œuvre d'IPv6, aux personnes ou aux entités qui sommes dans les provinces. Merci de nous entendre. C'est Gonzalo Camarota qui parle. Carlos pour la CNIC ou qui c'est qui voudrait répondre? Bon, c'est Carlos Martinez qui parle. Nous, on a des différentes initiatives de formation pour IPv6 et l'année prochaine, on va lancer une offre assez large de formation en ligne d'IPv6. D'autres séances de formation aussi, mais ce sera centré sur l'IPv6. Et le soutien plus actif, en fait, bon, écrivez-nous, on verra comment on pourra vous aider. Peut-être qu'on pourra vous mettre en contact avec d'autres professionnels, ou alors voir si, dans un aspect ponctuel, on pourrait vous soutenir. Mais ce qui est intéressant ici est que, autour de l'ACNIC et son initiative, on a développé une communauté assez riche, comme par exemple la communauté LACNOM de fournisseurs de réseaux. Et c'est une communauté qui a une propriété très positive, à mon avis, qui est la capacité de s'aider les uns les autres. Et je pense que dans la mesure où on s'abonne à ces listes de diffusion, on pourra bien saisir la richesse de cette communauté. Oui, c'est Federico Giglione qui parle. Il me semble qu'il y a un point important par rapport à ce que tu avais dit sur la génération d'applications ou de demandes au sein d'IPv6, parce qu'il me semble que c'est quelque chose qui a beaucoup d'arrêts. On a différents aspects ici. Donc on veut montrer ses bénéfices et l'idée serait de l'encourager à travers ce que les gens cherchent à avoir. Ce serait le mieux. L'utilisateur cherche une application qui se développe bien. Et parfois, on se rend compte, mais on se rend pas compte qu'il y a beaucoup d'autres aspects en milieu, mais en fait, ça, ce qui fait que les utilisateurs fassent ce qu'ils font sont les applications. Et alors, ces applications devraient déjà être destinées à opérer sur OPv6. Et ce sera un grand moteur pour tout ce qu'il y a dans le milieu. D'autre part, je voudrais te contacter plus tard et parler davantage avec toi sur ce qu'on pourrait faire. BT est un opérateur et on a précisément des outils pour pouvoir mettre en œuvre IPv6 depuis 2007, comme j'ai dit déjà. Et bien sûr qu'on voudrait migrer ce système dès que possible pour qu'un opérateur dans les provinces ait la possibilité d'opérer IPv6 de façon directe, que ce soit avec Dual Stack ou alors avec un déploiement plus petit. Et en fait, pour faire la transition graduelle, IPv6 est un grand changement, parfois c'est un grand bouleversement lorsqu'on le compare. Mais ce qui est sûr est que lorsqu'on a pris le pas, tout est plus facile. Bien. Jorge? C'est Julien Villa qui prend la parole. Je voulais dire quelque chose que Julien m'a rappelé lorsqu'on parlait des interventions, et au moins moi, je vois Internet en deux étapes. Jusqu'à présent, toutes les croissances dans la quantité d'utilisateurs, etc., sont considérées du point de vue de la quantité de personnes. Et cependant, l'Internet n'est plus un réseau pour les personnes. On va voir de plus en plus d'interactions ou de présence d'objets avec la capacité de se connecter au réseau. Et cela génère une série de marchés parallèles, que ce soit de l'industrie d'applications pour les voitures ou alors des loisirs. Et tout cela commence à utiliser la technologie IP et ça s'ajoute au réseau. Donc tout à coup, Internet devient un réseau de personnes et d'objets et de données, bien sûr. Parce qu'on a aussi des applications que l'on commence à gérer différemment. Et je pense que de penser le réseau depuis ce point de vue implique qu'il y a un changement de paradigme assez important. Et lorsqu'on comprend où va toute cette technologie, on doit se dire, bon, IPv6 est quelque chose qui va être un bénéfice pour moi et de toute cette technologie nouvelle que je vais pouvoir me servir à partir d'IPv6. Dont je vais pouvoir me servir à partir d'IPv6. Donc, vous n'avez pas à mettre en œuvre IPv6 étant conscient de cet environnement qui chante, parce que ce serait comme un suicide. Donc, je pense que peut-être on devrait se centrer plutôt sur ces aspects. Bon, c'est Léon Felipe Sanchez-Ambia qui parle. Je reprends ce qu'on a dit de la saturation du réseau pour des objets personnels, des équipes personnelles, des télévisions, des frigidaires, quoi que ce soit. Il y a 6 mois à peu près, je me rappelle qu'on m'a arrêté mon service de connexion Internet. Donc, j'ai appelé mon fournisseur du service. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi mon Internet ne fonctionne pas? Et il me dit, bon, c'est juste qu'on a détecté que vous avez engagé un service domestique, mais vous avez connecté 20 adresses IP. Et cela nous fait penser qu'en fait, vous revendez le service. J'ai dit non, c'est qu'en fait, ma télé, mon frigidaire, tout est connecté chez moi. Donc, je lui ai donné la liste d'applications. Et il m'a dit, bon, mais vous n'êtes pas un utilisateur normal. Mais non, le frigidaire, ce n'est pas commun. Mais moi, je ne vous ferai pas confiance, hein, dit Gonzalo Camarota. C'est Léon Felipe qui continue. En fait, c'est une réalité. Nous-mêmes, comme utilisateurs, on sature le réseau, pas intentionnellement, mais parce que, naturellement, notre style de vie nous amène dans ce sens. Voilà pourquoi je crois qu'il est important aussi de considérer cela, que les fournisseurs du service le considèrent. Il y a une autre question qui était posée par rapport à la configuration du switch. On demandait si c'était pareil, la configuration du switch pour l'IPv4 et pour l'IPv6. Nos amis les techniciens ici pourront peut-être nous aider. Vous voulez parler de switch? Ou on switch cette question? Non, c'est pareil, dit Carlos Martinez. Bon, dit Gonzalo Camarota, il faudra qu'on finisse. On a encore le temps? Bon, on a 15 minutes. On a une autre question là-bas. Merci. Je suis Mariela. J'appartiens au réseau d'interconnexion d'université de l'Argentine. Et c'est plutôt un commentaire, pas une question, ce que j'ai à faire. Et cela porte sur les fournisseurs qui... En fait, pour ton commentaire par rapport à un fournisseur des provinces qui essaie de mettre en œuvre, de commencer, on ne sait pas comment le faire ou quoi faire. Il y a un portail que la CNIC a. Carlos pourra t'en donner davantage d'informations d'ailleurs, mais c'est un portail qui s'appelle ipv6.lacnic.ipv6. Et autre que d'avoir beaucoup d'informations sur la mise en œuvre dans les différents environnements, les académiciens, l'utilisateur final, les fournisseurs, etc., il y a une partie intéressante qui porte sur la liste qui se met à jour peu à peu. Mais cela engage différents fournisseurs et différentes organisations de la région qui sont en train de mettre en œuvre IPv6. Donc là, on peut voir non seulement qui est en train de mettre en œuvre IPv6 dans son propre pays, qui l'a fait déjà et comment ils l'ont fait. Il y a une section qui dit détail. Dans le détail, on explique où ils en sont avec la mise en œuvre. Et cela porte sur comment les fournisseurs des câbles ont fait ce déploiement, comment ils l'ont offert aux clients. Il y a un petit détail, mais il y a un contact. Donc peut-être pour les fournisseurs qui viennent de commencer, cette liste de fournisseurs de la région serait utile. Merci. Gonzalo Camarota qui parle. Carlos, tu voulais parler? Non, dit Carlos Martinez. L'adresse est portal ipv6.lacnic.com. Donc, moi, j'avais du mal à comprendre tout cela et maintenant, je vois qu'il y a beaucoup d'aspects. Et si j'entends la conversation qu'on a eue, je pense que c'est complexe de voir par où on commence. Parce qu'il y a des utilisateurs finaux, qu'on se dit, c'est Gonzalo Camarota qui parle, jusqu'à ce que l'utilisateur finaux voit qu'il a un problème et qu'il achète un dispositif qui ne fonctionne pas parce qu'il n'a pas IPv6, il ne va pas venir se plaindre. Les fournisseurs de services disent, bon, moi j'offre, mais lorsque j'achète le logiciel, comme tu as raconté, on fabrique toujours en IPv4, donc je ne peux pas perdre dans le marché. Dire à mes clients, non, si vous n'avez pas IPv6, on ne va plus travailler ensemble. D'autre part, ceux qui développent du logiciel, Raoul racontait, ils sont des conseillers pour des gouvernements, ils disent non, cela pourrait être compliqué, on va devoir continuer avec IPv4. Et le gouvernement qui avait dit non, on veut IPv4 et IPv6, ils vont en arrière. Donc, qui c'est qui doit prendre une mesure? Il y a quelqu'un qui doit prendre une mesure concrète à une certaine échelle où quelque chose se passe et ce sera à ce point-là. qu'on devra commencer à travailler. Est-ce que ce sera nécessaire ou alors est-ce que l'une de ces lignes dans la chaîne pourra être d'accord pour commencer à réguler? À titre personnel, dit Carlos Martinez, je pense que ce n'est pas la responsabilité d'un seul groupe. On est fiers ici d'être une société multipartite. On est tous des parties prenantes ici. Et pour cela, on a tous une partie de responsabilité. L'utilisateur final, l'utilisateur, l'organisation, etc. On a tous une partie de la responsabilité. Ce qui est vrai est que l'utilisateur final est l'innocent dans ce film. Et ce n'est pas celui qui va prendre une mesure concrète jusqu'à ce qu'il voit que ça ne fonctionne pas. Dans ce contexte, alors, je pense que parfois, ça a l'air d'être une excuse de l'opérateur lorsqu'il dit « Personne ne me demande d'avoir IPv6 ». C'est vrai, mais les gens ne demandaient pas d'avoir IPv4 non plus. Les gens demandent d'avoir l'accès à Internet, l'accès au contenu, etc. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Je sais qu'il y a des fournisseurs qui le font. Oui, peut-être si on avait les geishas, ce serait différent, dit Gonzalo Camarota. Oui, dit Carlos Martinez. Il y a quelques années, quelqu'un a proposé sérieusement d'avoir un archive de vidéos porno sur Internet. Et ça aurait été un grand succès. C'est juste que, pour d'autres raisons qui ne sont pas techniques, on n'a pas pu le faire. Je pense qu'on a tous un peu de responsabilité ici et qu'il faut qu'on l'assume. Oui, définitivement, dit Jorge Villa, rien ne va se passer comme on l'a pensé originellement. Mais on doit tous aider et tous contribuer, parce qu'autrement, on ne va pas réussir à l'avoir. Je pense que les gouvernements ont aussi une responsabilité. Et par exemple, dans ce cas, le gouvernement des États-Unis, ils ont exercé pression. Comment? Ils ont développé un chronogramme d'introduction d'IPv6 dans tout ce qui a à voir avec son infrastructure gouvernementale. Mais qui c'est qui fournit le service au gouvernement? On a tous les opérateurs, on a les fabricants de logiciels, d'applications, etc. Donc, en quelque sorte, ils ont défendu ce point. Ils se sont dit, si on peut avoir l'IPv6 dans notre infrastructure, le pays va être en meilleure condition d'assumer IPv6 de façon générale, même si on n'a pas une date exacte pour la transition. Donc voilà des façons. Il faudrait voir quelle est la meilleure dans chaque endroit, mais on peut faire. La seule chose qu'on peut pas faire est de rester les bras croisés à regarder le soleil, la plage, etc. Ce qui est bon aussi. Gonzalo Camarota qui dit « Oui, vous êtes cubain, c'est pour ça que vous le dites, vous avez la plage juste à côté. » C'est la modératrice qui parle, une question de Luis Espinosa encore, et il dit « Dans mon expérience, l'administration isolée de dispositifs connectés est plus simple et plus facile en IPv6. Qu'est-ce que le panel en pense? Pourrait-ce être plus facile à utiliser ou pas? » On parle de la complication de traçabilité avec NAT. Gonzalo Camarta dit, oui, moi, je me demandais la même question. Je voulais pas la poser parce que je savais pas s'il le saurait. Il y a quelqu'un qui veut répondre? Carlos Martinez dit, non, je pense que ce serait trop technique. La réponse pourrait être, oui, c'est vrai, c'est plus difficile. Merci. Espinosa ne va plus vous répondre, dit Camarota pour l'instant. Federico Guiglione. Il y a une question qui me semble intéressante et qui peut être un moteur pour motiver la migration vers IPv6. Il y en avait un utilisateur ici qui avait raconté ou qui suggérait par rapport à faire que Google migre envers IPv6. Qu'est-ce que ça donnerait? Ce serait un grand moteur. Bien sûr, ça devrait être un bouleversement très fort pour tout le monde. Mais peut-être que montrer un différentiel d'IPv6 par rapport à IPv4 pour que cette migration commence à se faire plus rapidement. Je pense que ce serait une bonne politique. Olivia qui parle, On a déjà trop parlé des dates, parce qu'on aime, nous, les dates spécifiques et de créer la création de mythes. Mais que se passe-t-il? Il y en a qui apparemment sont des ennemis ou des concurrents comme Google, Microsoft, Yahoo, etc. Ils ont l'air d'être des concurrents, mais en fait, ils se sont mis d'accord à un moment donné pour mettre en œuvre IPv6 dans leurs infrastructures et faire que leurs services fonctionnent de toute façon. Donc pour qu'il n'y ait pas l'excuse que les contenus ne sont pas disponibles en IPv6. En fait, on travaille ici avec IPv6 dans le réseau de l'événement et on peut accéder à Facebook, Google, Yahoo et tout le reste. Le seul problème qu'il y a eu là, c'est qu'en quelque sorte, on n'avait pas de différence réelle du point de vue visuel. Qu'on sache quand est-ce qu'on accédait à travers la version 4 ou la version 6. Même si ça pourrait avoir l'air bête, les gens pourraient nous dire pourquoi moi je le vois en quelque sorte dans un endroit et dans l'autre c'est différent. C'est-à-dire que la présentation sur IPv6 pourrait être plus intéressante ou plus attirante que dans la version 4. Et cela pourrait être un facteur de motivation. Mais ils se servent vraiment d'IPv6. J'ai bien aimé ce que vous avez dit Carlos Martinez. Et je reprends ce que Federico disait. C'est Federico, non? Oui.
Il y a quelques mois, Google parlait du lancement du Nexus 5. C'était le modèle suivant de leur portable. Et Google a raconté qu'on leur avait proposé que dans la première semaine où le Nexus était vendu, le portail ne devrait être accessible que par IPv6. Je pense que ça n'a pas été fait finalement. On l'a discuté pendant une semaine ou un jour, ou peu importe. Mais je pense que ce genre d'initiative a un pouvoir remarquable. C'est un élément de diffusion beaucoup plus puissant que toute conférence qu'on pourrait organiser. Et en fait, en Uruguay, il y a eu une expérience très intéressante là-dessus. C'était un match de foot où l'Uruguay et l'Hollande ont joué une revanche de 2010 en 2012 ou 2011 à Montevideo. Et l'opératrice des télécommunications de l'Uruguay a adopté l'idée de le transmettre sur Internet avec la caractéristique que c'était dans un service payé en IPv4 et c'était gratuit en IPv6. Ce jour-là, il y avait plein de monde qui n'avait aucune idée de ce qu'était IPv6 et il m'a appelé pour configurer un tunnel pour pouvoir regarder le match gratuit. Donc l'effet de diffusion de ce genre d'initiative est très puissant. Federico Giglione, oui, peut-être si on demande à un artiste célèbre comme Madonna ou Lady Gaga de faire son show, son concert à travers IPv6, on aurait une migration énorme et ça pourrait être un grand bouleversement pour que les gens commencent à voir de quoi il s'agit, qu'il y ait une visibilité, qu'on commence à avancer dans la voie qu'on attend. Gonzalo Camarota, Léon, tu veux conclure? Léon Felipe Sanchez, oui, je veux simplement demander aux personnes involucrées et aux acteurs qui gèrent ou qui assignent ou qui finalement opèrent dans les réseaux de faire que cette migration soit aussi simple que possible pour les utilisateurs. Donc voilà, ce serait ma seule conclusion pour ce panel, de faire cette demande, que ce soit aussi facile que possible. Jorge Villa, je vous dis tout simplement qu'IP version 6 est quelque chose qu'on va devoir utiliser forcément et que tous ceux qui sommes dans l'industrie avons intérêt à ça. En quelque sorte, on a plus de travail, toutes les nouvelles modifications que vous voyez et plus de travail. Mais définitivement, n'oubliez pas que le réseau qu'on connaît jusqu'à présent ne sera pas pareil à partir du déploiement de tous ces nouveaux dispositifs que l'on connectera au réseau. Et à l'heure actuelle, déjà, on parle de milliers de dispositifs avec des possibilités, mais il y a plein d'initiatives. Et il y a des options réelles pour les développeurs, même pour les petites entreprises, les jeunes développeurs, de pouvoir créer des produits avec plein d'innovations pour utiliser ces nouvelles technologies pour les dispositifs avec la capacité de se connecter au réseau. Gonzalo Camarota, bon, merci beaucoup. On conclut donc cette cette séance Parlons IPv6. On remercie tous ceux qui ont été ici, tous ceux qui l'ont suivi à travers les réseaux, tous ceux qui ont posé des questions. Merci à tous.